Dans le cadre de vos recherches, est-ce que vous avez travaillé avec Catherine Barthélémy à une occasion ou à une autre?
Alors, j'ai eu l'occasion de travailler, vous allez voir, c'est beaucoup plus, c'est une autre facette de ma carrière. Alors, effectivement, j'ai eu, alors tout de suite, elle avait aussi des stagiaires dans le service, il y avait, je peux dire, on avait, vous allez voir pourquoi, des stagiaires, et il s'est trouvé qu'elle avait une stagiaire, qu'elle a eu une demande d'une Brésilienne qui étudiait la déglutition chez le prématuré. Enfin, chez l'enfant. Et qu'elle, donc elle demandait à faire un 2A avec elle. Elle dit, mais c'est pas mon domaine, c'est le domaine de Michel, donc allez voir Michel Boiron. Donc elle a fait effectivement son 2A avec moi et sa thèse, cette jeune Brésilienne. Et on est allé travailler avec Elisa Liba, donc dans le service de néonatologie à Clocheville. Donc là, une thèse, vous savez, ça dure 3 ans. Donc avec le DA, elle a été 4 ans avec moi. Là aussi, on a remonté une étude de déglutition et avec une technique nouvelle que j'ai mis au point avec elle pour enregistrer la déglutition chez les petits, là, hein, les prématurés, c'est les petits, et déglutition et succion, parce qu'elle avait aussi donc il a fallu mettre au point les tétines avec les capteurs dedans et l'analyse informatique derrière pour il y a eu un joli travail de fait sur l'évolution, en fait, ce qu'il fallait chercher. Bon, elle faisait la rééducation, mais ce qu'il fallait chercher aussi, c'était le comportement déglutitoire. Comment un prématuré, parce que les prématurés ont une sonde, dès qu'ils naissent, ils sont pas matures. Donc, il faut une sonde pour les gaver, une sonde de gavage, pour les nourrir, en fait, ces petits. Et puis, à partir d'un certain moment, on peut soit le biberon, soit le sein, en fonction de ce qui, enfin, du désir des mamans. Et alors là, il y a toute une période où il y a une adaptation de l'enfant. Il sait pas, on laisse la sonde et on commence à le faire téter, et jusqu'à temps qu'il soit autonome. Donc ça peut durer un mois, ça dépend des enfants. Et là, on a étudié l'évolution justement de la déglutition et de la succion des enfants qui savent pas se réguler, qui vont avaler. Il y en a comme ça, même des normaux, qui vous leur donnez le biberon, ils vont avaler en 10 secondes, le biberon est fini, mais il faut respirer aussi de temps en temps. Donc on a étudié cette alternance de succion, de respiration, comment l'enfant se débrouille quand il a un petit volume à avaler pour s'organiser, pour le faire bien. Parce qu'après, si c'est mal fait, ça c'est aussi la physiologie. La physiologie, quand tout va bien, c'est parfait, c'est bien régulé. Mais dès qu'il y a un problème, on tombe tout de suite dans la pathologie. C'est ça, c'est pour ça que la physiologie, c'est important. C'est une discipline fondamentale. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne pouvez pas déduire la pathologie. Vous savez, vous n'êtes pas censé. Donc la physiologie, pour les étudiants, c'est capital. Ils aiment bien, en plus, la physiologie. C'est assez concret. Donc il faut connaître bien le fonctionnement. Donc là, c'était ça pour... Alors ça, c'était très tard, parce que j'ai travaillé donc 35 ans aux côtés de Catherine Barthélémy et de M. Lelor dans le service. D'accord. Avec les autistes. Alors comment ça s'est fait? C'est toujours avec le digestif, avec l'estomac. Moi, j'étais jeune, je débarquais à la faculté. J'allais dans les services du professeur Aron, du professeur Bertrand, et puis j'assistais aux réunions de dossiers. Et puis souvent, j'entendais dire, celui-là, oui, il a du mal à digérer, oh ben, il est un peu particulier, ça doit être, bon, c'est peut-être psychologique. Bon, c'est bien. Et j'ai entendu ça plusieurs fois, puis les gens, ça ne les soignait pas de dire ça. C'est psychologique, on l'entend encore, hein. C'est psychologique. Et je me suis dit quand même, c'est psychologique, d'accord, mais il y a peut-être... alors le psychologique que je ne connaissais pas, je dis, ben, au bout d'un an ou deux ans, j'ai dit, ben, moi je vais faire psycho. Donc je suis allée, je commençais à Tours, et puis après, ben, pour les DEA, je suis allée à... Pour le, non, je n'ai pas fait de DEA, j'ai fait de la clinique en psychologie. Donc il y avait un niveau DEA, mais ça ne s'appelait pas, ce n'était pas un DEA, c'était pour pratiquer. Donc à Rennes, et il fallait faire un stage. Et je suis allée chez qui ? Ben, chez Monsieur Lelor à Tours, hein. Étant physiologiste et lui aussi, j'allais pas aller chercher un stage bien loin. Donc Monsieur Lelor m'a pris en stage. Ben, j'ai fait mon stage de psychologie chez Monsieur Lelor. Et puis je suis restée un petit peu plus. J'y allais de temps en temps. Parce que j'avais trouvé que les enfants, ça m'intéressait de voir ces enfants. Il y avait la population dans le service était très variée. Hein. Il n'y avait pas que des autistes, il y avait beaucoup d'enfants différents. Et alors je vais raccourcir un peu, mais à un moment donné, il était mis en place la thérapie d'échange et de développement. Et après. Et on a dit, ben, il faut aussi évaluer. C'est bien d'avoir... On voit les enfants, mais comment... alors, on avait quelques comportements. Il regarde, il ne regarde pas, il fait... il échange, il regarde ailleurs, etc. Et à un moment donné, je dis, ben, je suis revenue un matin avec une courbe. On avait suivi un enfant pendant 3-4 mois et je suis revenue avec une courbe en me disant, ben voilà, ce comportement-là, j'ai regardé... Ça avait été l'échelle de comportement était en train de se mettre en place. Et moi, j'avais pris un item et j'avais regardé sur 3 mois, pas tous les jours, mais de temps en temps, comment l'enfant évoluait. J'avais les dates, si ça évoluait en fait, si ça changeait. Et puis, je suis arrivée avec ma courbe qui faisait pas toujours bien régulière. Ça ne montait pas, amélioration pas en flèche. Et il s'est dit, tiens, ben... T'as dit que dans sa tête, celle-là, on va la garder. Elle est pas mal. Et c'est comme ça que je suis restée dans le service. Donc, longtemps, je suis allée bénévolement. J'étais mono-appartenante, hein, en tant que maître de conférence. J'étais pas... vous savez, normalement, en médecine, on est bi-appartenant. Moi, j'avais mon poste de maître de conférence. Et puis, à l'hôpital, j'avais rien. Donc, j'allais comme ça, mais sans... Et donc, M. Lelor, après, m'a donné des vacations. Mais j'ai continué. Donc, alors, je suis restée, 35 ans, puisque j'ai commencé à 5 quand j'ai fait physio, en fait, un peu après. Donc, 35 ans dans le service avec les autistes. Alors, avec Catherine, évidemment, qui a du même âge. Hein, on est du même âge. Donc, on se connaissait, bien sûr, mais... Comme ça, on était presque au même niveau au départ, hein, dans ce domaine-là. Elle, à partir du moment où elle était dans le service, forcément, c'était sa spécialité. Moi, je venais par intérêt scientifique, clinique, pas intérêt parce que ça me plaisait de faire ça. Donc, j'y allais le matin. Et Monsieur Lelor m'avait dit, restez dans le domaine des thérapies. Il ne faut pas vous disperser. Donc, je n'étais pas là en tant que psychologue pour faire des évaluations et des examens psychologiques, mais plus dans le domaine, ce nouveau domaine des thérapies comportementales. Et j'ai eu la responsabilité de ce secteur-là pendant longtemps, quoi. Pas tout de suite, mais parce que ça se faisait progressivement.
Mais vous faisiez ça en plus de votre activité.
Ben, je faisais le matin comme si ça avait été un travail. C'était un travail hospitalier. D'accord. En fait, clinique. Là, cette fois, c'était vraiment mon point de chute clinique. Vous savez qu'on fait, on a 3 casquettes, hein, l'enseignement, la recherche et la clinique. Ça, c'était le côté clinique. Alors, la recherche clinique, c'était vraiment de la recherche dans le domaine du digestif. Ça avait rien à voir.
Et là, vous receviez les enfants, vous interagissiez avec eux ou vous observiez
non,
les
j'avais,
échanges ?
Alors, on avait un petit secteur de thérapie d'échange et de développement. On prenait les enfants, alors, au début, régulièrement, mettons deux fois par semaine, avec un soignant et une autre personne, éventuellement Catherine en a fait, on est tous passés par là, ceux qui voulaient bien, l'orthophoniste ou autre, et puis un soignant, et cet enfant avait donc deux personnes de référence pour la thérapie, et venait donc dans une petite, elle a dû vous raconter ça, dans la petite salle, pour échanger avec les enfants, pour leur apprendre à échanger, à communiquer, à jouer, ça se passait avec le jeu, par l'intermédiaire du jeu. Donc j'étais responsable, alors j'en faisais moi-même, j'avais un ou deux enfants par an sous ma responsabilité, où je faisais les thérapies pour eux. D'ailleurs, après quelques années, Catherine, les plus difficiles, Catherine disait, il faut le laisser à Michel. Ça c'est pour Michel, on n'y arrivera pas, c'est pour Michel. Et il y avait, au départ moins d'une dizaine d'enfants chaque année. Hein. C'est très prenant. Et puis, alors je ne sais pas maintenant combien il y en a, mais suivre 10 enfants comme ça, deux fois par semaine, avec un binôme. Et puis, après, on a fait les évaluations. Donc, j'étais responsable de ces évaluations, des courbes. Et on a commencé à faire. Alors, on regardait. Elle vous a dit ça, Catherine. On regardait à travers une vitre sans teint au départ. On était dans une salle et on regardait la thérapie se faire. On regardait la thérapie. Oui, parce que c'est comme. On regardait la thérapie. Donc il y avait une pièce qui dans le service, donc une pièce qui donnait sur les deux salles de rééducation, enfin de thérapie, et avec des glaces sans teint. D'accord. C'est toujours ouvert, on n'avait pas, enfin ouvert, rien n'était secret, on pouvait tout le monde, à condition de ne pas déranger, tout le monde peut tout regarder, il y a pas de, donc on pouvait regarder, visionner, on pouvait prévenir quand même le thérapeute, mais pas forcément, donc on regardait et puis on évaluait, et après on a eu la vidéo, et maintenant on a un service formidable avec la vidéo, et on a fait, là aussi on a tout connu, hein, depuis le même les photos, le film, les cassettes, et puis maintenant directement quoi, ce qu'on fait. Il y a une évolution là aussi intéressante du point de vue technique. Oui. Et les montages, j'ai fait beaucoup de montages parce qu'on faisait les réunions de thérapie une fois par semaine. Et moi j'étais chargée au début, quand on a eu la vidéo, de faire les montages. Les thérapies, ça dure maximum une demi-heure. Mais quand vous voulez parler d'un enfant, il faut prendre non pas une, mais plusieurs pour montrer l'évolution. Et vous n'allez pas faire trois quarts d'heure de séance. Donc, il était plus efficace de faire un montage de 6 minutes avec trois points différents, en fonction de ce qu'on avait à faire. Montrer une évolution positive ou négative. Hein, ce n'était pas du tout un comportement. Il y avait des enfants qui régressaient, c'était pas toujours en flèche, mais ça permettait de faire un point. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, parce que je travaillais avec les binômes de thérapie, c'était de leur montrer, parce que quand on prend en charge un enfant autiste comme ça, on ne voit pas les progrès comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Parfois, il faut 3 ans, parfois, c'est difficile. Il n'y a pas un enfant pareil. Et les thérapeutes nous disaient aux réunions, « Ah, mais il avance pas, mais c'est pas bien. Oh là là, mais moi, je suis... » Enfin, ça allait pas, quoi. Et en leur montrant les petits progrès infimes, ça renforçait bien sûr les thérapeutes qui n'étaient pas déprimés à ce point-là, mais ça montrait l'évolution. Là, tu vois, il te regarde mieux. Ah bon ? Ah oui, mais tu as raison. Parce que quand on est in situ avec l'enfant, on voit qu'il nous regarde. Mais on ne voit pas l'évolution. On a l'enfant avec nous, n'importe quel enfant. Vous voyez pas comment il va changer. S'il a changé, vous avez l'impression que ça ne change pas, en fait. Alors que ça change. Et ça, c'est important de montrer, voilà, ça peut aussi régresser, et de, ces moments de régression sont importants aussi pour après dire ben, pourquoi il a régressé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, est-ce qu'il y a eu quelque chose ou pas. Et à ce moment-là, on peut voir si ben, la maison ou dans le service, ou même l'enfant lui-même, il a été malade, il a été... c'était vraiment les évaluations. Donc j'ai fait ça, c'était très, très, très agréable, enfin difficile, mais...
Et 35 ans, ça fait une longue durée. Vous avez choisi d'arrêter à quel moment, quand vous avez pris votre retraite?
Mais oui. On vous dit à la faculté, vous avez vu, je suis du 23 juillet, on vous dit à l'hôpital, le 24, on ne veut plus vous voir. Et à la faculté, on m'a dit, ah, juillet, on m'a dit, on peut te prolonger jusqu'au mois de septembre. Moi, j'avais le mois d'août.
Oui, c'est pas grand-chose.
Donc, j'ai un mois, on m'a donné. Sinon, c'était juillet aussi. Alors, bon, c'est une boutade, une anecdote. Mais... Non, mais après, c'est ça. On vous dit, c'est fini, quoi. Vous avez 65 ans. 65.